Je crois qu'il y avait une grande fraternité entre la peinture de Miró et la poésie surréaliste. Et c'est pour ça que Miró n'a jamais dit qu'il n'était pas surréaliste. Et je crois que c'est une chose tout de même extrêmement importante que les poètes aient les premiers, je crois, compris Miró. Miró parlait de sa pauvreté, je me souviens de la rue Blomet, c'était vraiment très, très pauvre. Eh bien, tout de même, il y avait dans son atelier une espèce de violent incendie qui nous a complètement exaltés. Et je dois dire que non seulement Prévert, mais André Breton, mais Louis Aragon ont été tous absolument enthousiastes dès qu'ils ont vu les premières peintures de Miró. Et nous avons été, je crois, les premiers poètes à aimer Miró avant les marchands. Parce que nous avons compris que tout à coup venait quelqu'un qui venait après Max Ernst, après Tanguy, après Masson, mais qui nous apportait un son nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de puissant et d'énergique.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est en 1974, à l'occasion du 81e anniversaire de Joan Miró, que Philippe Soupeau s'exprimait ainsi. Accrochées dans les plus grands musées, les toiles les plus célèbres du peintre catalan, reproduites à des millions d'exemplaires, ornent depuis partout les murs des écoles, réputées offrir aux enfants un regard naïf, magique, sur le monde. Assimilé alors au surréaliste, Miró fut certes profondément influencé par cette mouvance, découverte lorsqu'il s'installe à Paris en 1921. En ce sens qu'elle lui offrit, comme il le dit lui-même, une délivrance, la possibilité d'aller au-delà de la peinture. Le fauvisme, le cubisme ne m'avaient apporté que des disciplines formelles sévères, expliqua-t-il plus tard. Le surréalisme m'a ouvert un univers qui justifie et apaise mon tourment. La splendide rétrospective du Grand Palais nous permet de mieux comprendre ce que fut justement la conquête obstinée et solitaire de ce chemin original que Joan Miró décida très tôt d'emprunter. Et son titre, « Ceci est la couleur de mes rêves », qui reprend celui d'une de ses toiles de 1925, nous donne le meilleur des indices pour déambuler émerveillé parmi les quelques 150 œuvres qui retracent de 1912 à 1975 la trajectoire unique, poétique, incroyablement libre, d'un artiste charnellement lié à la Terre et au cosmos. Une œuvre souvent plus sombre et violente qu'on ne le croit. Jean-Louis Prat, qui devint son ami lorsqu'il dirigea la Fondation MAT à Saint-Paul-de-Vence entre 1969 et 2004, est le commissaire de cette exposition qui est à voir jusqu'au 4 février. Bonsoir Jean-Louis Prat, merci d'être
Bonsoir,
avec nous.
Catherine.
Vous avez donc eu cette chance incroyable de rencontrer et de travailler avec Miró lorsque vous étiez à la tête de la Fondation MACT où il a créé ce merveilleux labyrinthe. Racontez-nous comment était Miró à ce moment-là, comment il s'adressait aux gens avec qui il travaillait. Quel homme était-il ?
Oh, il était un homme, je vais employer tout de suite le mot de merveilleux, c'est vrai, parce qu'il avait une simplicité, un abord remarquablement ouvert. Il avait les yeux ouverts sur le monde, le regard émerveillé, oui. Et puis l'idée que le travail était sa vie, la recherche, l'engagement, il l'a prouvé tout au long de sa vie, vous l'avez très bien résumé tout à l'heure. Et c'est vrai que Miró a su apporter comme ça un dialogue avec la modernité d'une façon qu'on ne l'en attendait pas. C'est-à-dire qu'il a créé ce langage étonnant, un langage poétique. On connaissait la figuration, on connaissait l'abstraction, on connaissait le mouvement surréaliste. Mais Miró a toujours été dans la recherche d'une vérité. Et cette vérité, il l'a recherchée aussi dans les êtres ou les personnes qu'il abordait. Il s'est lié d'amitié. Mais encore, pour ces amitiés, il faut avoir les amitiés des autres. Et les amitiés des autres, elles étaient réelles. Elles ont toujours existé tout au long de sa vie. C'est fait d'une fidélité exemplaire. Pendant 70 ans, avec ce sentiment que les mots des poètes, les mots étonnants qu'ils inventent, vont nous guider et vont le guider vers un langage qui est le sien et qu'il puise dans l'interrogation qu'il a faite sans arrêt de ce sol sur lequel il a vécu. des objets, des ustensiles usuels qu'il fréquentait, des personnes dont il décelait tout de suite la part de vérité et avec lesquelles il travaillait.
Alors, on va donner la parole tout de suite à Miro. Il parle justement de l'importance des poètes, plus que des poètes surréalistes. Ce sont les poètes qui l'ont fait devenir ce peintre Miro qu'il est devenu à Paris lorsqu'il est arrivé après 1921.
Moi, je n'ai jamais accepté qu'on me mette une étiquette sur moi. Ça. J'ai toujours gardé mon indépendance vis-à-vis des surréalistes. Moi, ça me gênait qu'on me colle une étiquette.
Et je crois que c'est à l'époque où vous avez participé au Ballet Russe que vous avez également fait les premiers paysages imaginaires. Et je crois que c'est une chose importante dans votre carrière.
Oui, oui.
Car il ne faut quand même pas oublier le peintre Miro également dans notre aventure. Et le peintre Miro a évolué énormément à cette époque. Enfin, oui. Petit à petit, on arrive au Miro que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire celui des signes.
Ah oui, mais ça a été fait très lentement, ça, enfin lentement.
Mais c'est à l'intérieur quand même de votre activité avec les surréalistes que c'est peu à peu décidé votre écriture.
C'est ça. Ah oui, ça se décapita. Oui, parce que j'ai senti avec eux qu'ils allaient au-delà de la peinture, des choses plastiques.
Oui, à ce propos, justement, le surréalisme pour vous, qu'est-ce que c'était ?
Ah, c'était une délivrance pour moi.
Ça, ce n'est pas le groupe qui vous intéressait, mais la pensée surréaliste.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas les groupes, c'est la pensée.
Et cela explique pourquoi vous avez surtout travaillé avec les poètes.
Oh, ah, oui, parce que les poètes surréalistes sont allés très loin, en tant que poète. Je me sentais tout très, très près de Paul Éluard.
Jean-Louis Prat, vous avez choisi pour la première page de ce magnifique catalogue qui accompagne la rétrospective Miro au Grand Palais. Cette toile de 1925 qui s'appelle « Photo, ceci est la couleur de mes rêves ». Est-ce que justement on pourrait dire que Miro est un poète qui peint ses poèmes ?
Oui, on peut le dire. Il inclut d'ailleurs les mots dans la peinture. Il va faire ses peintures-poèmes. Et ces peintures-poèmes, il y aura des chiffres également. Il y a ce merveilleux tableau aussi, l'Addition, qui est au centre Pompidou. Il y a plein d'autres œuvres qui indiquent tout cela à cette époque où Miro, bien sûr, ne se prive pas de la joie d'écrire lui-même et puis de se confier par l'intermédiaire des autres à la découverte d'un monde. Et ça, c'est véritablement le pouvoir extraordinaire de Miro qui nous interroge toujours. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce que Miro a su se libérer aussi même des surréalistes, il le dit lui-même. Le moment, bien sûr, c'était l'idée de retrouver tous ses amis, mais d'être aussi indépendant au sein de ce groupe. Et il a déclaré d'ailleurs, on a cru à tort que j'étais un peintre surréaliste, comme on a pu penser que Picasso était un peintre cubiste. C'est vrai qu'il a fait partie de cette mouvance, il a fait partie de ce groupe, mais il a su s'en détacher parce qu'il a su inventer d'autres interrogations. Par exemple, lorsqu'il peint sur des supports différents, lorsqu'il accepte de se livrer même directement à une toile non préparée. Ça paraît stupide, mais tout le monde travaillait sur des toiles préparées. C'était déjà la logique de plusieurs siècles, qui était une tradition. Miro, la tradition, oui, mais je dirais que c'est une tradition séculaire. Il va aller chercher ça jusqu'aux grottes d'Altamira, aux grottes de Lascaux. Il va s'interroger sur l'homme tel qu'il est apparu et tel qu'il doit laisser des traces. Et ces traces, cet alphabet qu'il va inventer, va être quelque chose de tout à fait puissant, étonnant et novateur. Quand on voit également l'interrogation qu'il a pu avoir dans les années 30 sur la montée du populisme ou du fascisme, alors il n'était pas le seul, il était avec Picasso évidemment, il était avec Julio González, où il sera avec également Sandy Calder, pour exposer au pavillon de l'Espagne républicaine de 1937 et dire avec force ce qu'il en est. Mais il s'interroge avec une justesse étonnante qui nous replace dans des moments où l'homme ne doit jamais abandonner le combat. Il est en vie pour combien de temps ? Le temps est court, il faut dire la vérité. La vérité, Miro s'y est toujours attaché et il va l'interroger à travers différents matériaux, à travers différents supports qui ont évidemment étonné même les surréalistes les plus aguerris.
Mais ce qui est intéressant, Jean-Louis Prat, dans les rétrospectives, quand on aime un peintre mais qu'on n'est pas un spécialiste comme vous l'êtes, c'est qu'au fond, ça nous oblige à voir la trajectoire. Alors, dans les premières salles, on voit les premières œuvres de ce Miro catalan. Il disait à l'époque « je suis un fauve catalan ». Puis on le voit arriver à Paris, et là, Miro devient Miro. Au contact des poètes, au contact des expositions qu'il voit, au contact des artistes aussi. Vous savez... Picasso ne s'y trompe pas d'ailleurs, il va garder presque toute sa vie vie, l'autoportrait que Miro va lui donner, qui Picasso. Ressemble d'ailleurs à un autoportrait de Picasso qu'on a pu voir récemment à une exposition Picasso.
C'est vrai, mais quand il découvre Paris, c'est une forme de liberté. Et ce monde qu'il ne connaissait pas, il avait découvert la peinture fauve et la peinture cubiste à Barcelone. Mais il voulait voir un peu ces artistes qui créaient. Et quand il va les découvrir, Picasso en premier, Picasso qui gardera deux œuvres dans sa collection, qui sont maintenant au musée Picasso et qui sont au début de l'exposition, dans cette période détailliste. Mais la liberté de Miro, dans les années 20, est évidente et elle parle avec justesse toujours de ce qu'il a connu. Il interroge la réalité, finalement, en permanence, en rêvant. Et il disait une chose très juste, il disait « Je ne rêve pas la nuit, je rêve en travaillant. » Et il rêvait en travaillant lucide, ouvert sur le monde, et peut-être en abandonnant tous les schémas que les autres proposaient. C'est ce qui le rend très différent et si puissant.
Alors, il y a son ami, le poète Jacques Dupin, qui a travaillé beaucoup avec lui, notamment sur la recherche des titres, sur des cahiers alliant les poésies et les illustrations. On va l'écouter, c'était en 2001, et il emploie à peu près les mêmes mots que vous, Jean-Louis Prat. Il dit que Miro a inventé un nouvel alphabet.
Picasso, je dirais que c'est un langage très classique, avec des inventions géniales, mais c'est un dialogue avec la peinture telle qu'elle était. Le peintre et son modèle, c'est quelque chose de très classique. Et ça sera presque le sujet de toute sa peinture. Alors évidemment, il y a le regard extraordinaire sur son temps. Chez Miro, il y a le fait de vouloir inventer un langage très nouveau. Je dirais qu'il y a peut-être deux artistes qui ont inventé un langage tout à fait étonnant au XXe siècle. Léger, qui s'accorde à la modernité parce qu'elle produit à travers la machine. Et puis Miro, qui lui a le besoin, à travers un langage qui n'est ni abstrait ni figuratif, d'inventer, une fois de plus, un nouvel alphabet qui sert à créer quelque chose que l'on ne connaissait pas.
Jean-Louis Prat, c'est aussi fascinant de voir qu'il y a comme un trépied pour les créations de Miro. On le revoit dans la succession des toiles quand on visite l'exposition au Grand Palais. Il y a la femme, il y a les étoiles et il y a la terre. Et à chaque fois, il recombine cette trilogie pour nous raconter l'univers dans lequel il vit et dans lequel il rêve.
C'est l'univers de la vie, c'est la fécondité. C'est la femme qui donne naissance, c'est aussi des formes sexuées, et ça n'est jamais agressif de sa part. C'est toujours une forme qui est comme ça, naturellement, qui s'impose dans son œuvre, et le sentiment que, à travers ses interrogations, eh bien oui, il a créé ce nouvel alphabet, dont on s'interroge toujours, et un nouveau langage, finalement. Il est là pour parler de lui-même, et l'interrogation qu'il a sur les choses les plus humbles, les plus simples, eh bien, il va les mettre en évidence et nous donner à rêver avec simplicité sur ce que nous connaissons, sur ce que nous voyons, mais que nous percevons, mais que nous voyons mal. Les couleurs également qu'il met en place à travers les formes, le bleu, la terre, qui est magnifiée par ses couleurs, puis les interrogations qu'il peut avoir également sur les différents matériaux qu'il va interroger tout au long de sa vie, la céramique qui intervient, le retour à la terre, à cet art populaire, à cet inventaire comme ça, de formes et de caractères très particuliers qu'il va savoir créer et qui va assembler, qui vont le conduire à travers la céramique aussi à aller vers la sculpture. Et ce qui est vrai, c'est que à travers cette interrogation très insolite, très particulière, qui finalement ne repose que sur la curiosité qu'il peut avoir. Il nous amène à nous interroger nous-mêmes sur la curiosité que l'on devrait avoir. Et ça, c'est aussi ce langage si neuf qu'il va aller jusqu'au bout, sur une trajectoire absolument étonnante, jusqu'à l'âge de 90 ans. Et quand il est mort le jour de Noël, 1983, Libération avait eu ce joli titre, Miro est parti avec le Père Noël. Et c'est vrai que il avait amené là une interrogation que l'on a tout enfant et que l'on peut avoir aussi un peu adulte des fois. Non pas de croire à des chimères, mais de s'interroger sur des réalités, sur des autres réalités, et les recréer pour nous-mêmes afin peut-être de les proposer aux autres.
Alors, ce qu'il y a de bien aussi quand on se promène dans ces salles du Grand Palais consacrées à Miro, c'est qu'on regarde ses œuvres, on s'immerge dans cette peinture, mais en même temps, on lit ces titres extraordinairement poétiques que Miro a mis sur pratiquement toutes ses œuvres. Et il disait qu'il découvrait, à mesure de la peinture, et le sens de son tableau et son titre. On écoute quelques titres.
Le cheval, la pipe et la fleur rouge. Main à la poursuite d'un oiseau. Figure devant une métamorphose. Une étoile caresse le sein d'une négresse. Femme au bord du lac à la surface irisée par le passage d'un cygne. Femme entourée d'oiseaux regardant le lever d'une étoile. Le soleil rouge ronge l'araignée. Jeune fille s'évadant. L'oiseau au plumage rougeâtre annonce l'apparition de la femme éblouissante de beauté. L'oiseau se niche sur les doigts en fleurs. Les oiseaux de proie foncent sur nos ombres. L'espoir du condamné à mort.
Vagabonde sur France Inter.
Lorsque vous faites de la peinture, vous partez d'une toile vierge?
Oui. Non, jamais, jamais. Jamais d'une toile qui sort de chez les marchands de couleurs. Je provoque des accidents, soit en nettoyant les broches, soit en faisant une tache de couleur ou une forme, n'importe quel accident, quoi.
Ou en accroissant, on m'a dit.
C'est ça, oui. Comme je fais un dessin, je prends un morceau de papier, je commence les comme ça, n'est-ce pas, les passer dans mes mains. En les froissant, en les mouillant, etc. C'est l'eau qui coule,
des formes. Le début d'une œuvre,
oui,
est pour vous presque sans importance. J'entends par là que je pourrais moins faire donner quelques coups de pinceau,
mais
traits,
très certainement, mais oui.
C'est pour ça. Ce qui pour moi ne serait qu'un gribouillis, pour vous serait un thème.
C'est ça, un point de départ, oui, un choc. C'est ça. Moi, je parle toujours du choc.
et vous permettrez de l'organiser.
Ah oui, c'est évidemment, oui. Bon, vous faites un trait quelconque, moi je parle de ces traits, alors vous y rajoutez encore un nouveau trait, c'est comme cela. C'est comme on pose, c'est comme je vous ai dit, un mot qui vous entraîne la pensée, ce n'est pas, on commence pas par la pensée. C'est les mots qui vous entraînent, qui vous amènent les pensées, qui vous viennent.
Oui, comme le poète.
C'est ça, comme les poètes, comme chez les poètes.
Jean-Louis Prat, on vient de réécouter la voix de Miro répondant aux questions de Georges Charbonnier en 1951. Et c'est vrai que souvent, les gens ont une réaction un peu superficielle en disant « Oh, les peintures de Miro, c'est un peu enfantin, c'est naïf. » Et Giacometti, qui était un grand admirateur de la peinture de Miro, disait « Mais détrompez-vous, un point sur une toile de Miro, il est toujours à sa juste place. Et s'il était ailleurs, la toile ne fonctionnerait pas. »
Il avait tout à fait raison. C'est vrai que Miro n'est pas d'abord un peintre qui joue comme ça instinctivement. C'est pas un gestuel. Lorsqu'il va poser un pont ou lorsqu'il va faire un trait sur une toile, eh bien c'est dans la certitude qu'il se trouve placé là où il doit être. Et il nous révèle la vérité de ce monde-là. Il parle toujours en français, vous avez remarqué, de la peinture. Oui. De même que tous
mais de
les
même
titres,
que, voilà, tout ce qui est écrit sur les tableaux, c'est en français. C'est très
et
surprenant.
Toujours. Miro utilisera le langage, enfin la langue française, pour parler escargot, femme, fleur, étoile, voilà. Tout est en français. Il y tenait parce qu'il s'exprimait à travers le langage qu'il avait appris en connaissant les poètes. Et il savait que la justesse d'un mot agrippé à un autre donne quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jacques Prévert écrit le sublime et corrosif, eh bien, oui, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Et bien, il faut être certain de ce que l'on fait, et il le place là où il doit être.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur moi, la salle qui m'a laissé. J'allais dire presque la même impression que la salle des Nymphéas. Les trois toiles bleues immenses qui sont ensemble dans une petite salle ronde. Elle date de 1961, bleu 1, bleu 2, bleu 3. Miro, lorsqu'il en parle, dit que, en fait, ces toiles, ça a d'abord commencé par une profonde méditation. Ça a été très lent à créer. Il y est rentré comme dans un rite religieux. Est-ce qu'on peut dire que ces trois splendides toiles bleues, c'est au fond la quintessence même de ce que Miro a cherché toute sa vie, a voulu transmettre par la peinture?
Probablement. Tout comme l'espoir du condamné à mort, plus tardivement. Mais c'est une œuvre essentielle. Miro a travaillé près d'un an sur ces trois tableaux très importants. Le bleu qui est un bleu comme ça, qui n'est pas un bleu posé à la va-vite. D'un bleu, il a travaillé avec une brosse, avec un lentement.
C'est pas du tout uniforme, on le voit.
Il y a un travail gestuel qui est fait pour imposer, comme ça, c'était une longue gestation. Miro réfléchissait beaucoup avant d'agir sur un tableau. Lorsqu'il jetait quelque chose, même quand il partait, il dit, il me faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un éclat de lumière. Le moindre bout de ficelle peut déclencher tout un monde. C'est vrai que il y a chez lui le sentiment qu'il peut partir de cette façon-là. Du reste, les tableaux, on pense que c'est instinctivement ce qu'il veut faire, pas du tout. Il y a souvent, et très souvent, des études qui ont été faites, des notes qui ont été posées sur des carnets qui existent. On ne pouvait pas les mettre dans l'exposition parce que ça donnait une autre lecture, et donc c'était peut-être difficile, étant donné que c'est une très grande exposition dans le sens du volume de l'exposition. Mais on comprend, je crois, très sincèrement, ce qui se passe, c'est que Miro travaille très lentement. L'œuvre peint n'est pas considérable. Il y a 2700, 2800 tableaux. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup d'œuvres à côté. Mais l'œuvre de Miro se déroule comme ça, avec une réflexion très lente. Et lorsqu'il peint ces trois tableaux bleus, c'est évidemment pour essayer de capter l'espace qui nous entoure, de dire, tiens, essayons de l'amener à nous, de ramener peut-être les étoiles, la lune ou le soleil à portée de la main. L'homme a rêvé de les conquérir. On invente des fusées, lui nous les amène à portée de la main. C'est formidable.
Il y a un autre moment très émouvant aussi, enfin il y en a beaucoup dans cette exposition, mais il faut s'arrêter sur les constellations, qui sont des tableaux de même format, de 46 par 38 cm. Il en a peint 23 entre 39 et 42. Il était à Varengeville. Et ces toiles, c'est aussi un mystère. D'abord, elles sont sublimes, mais ça correspond à une réflexion, on le sent presque métaphysique. C'est la guerre, il s'est retiré de Paris, il est en Normandie, à côté d'amis à lui, peintres et poètes, et il peint ces petits formats. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous l'avez interrogé sur le sens de ces constellations?
Oui, il en parlait comme une nécessité absolue. Miro ne fait jamais rien par hasard. Et vraiment, lorsqu'il se décide à faire cela, la guerre est déjà déclarée. Elle va, hélas, aboutir à une catastrophe. Miro se réfugie, comme vous le dites, à Varengeville. Il partira d'ailleurs 8 jours avant l'invasion allemande en France. Et il ira ensuite travailler à Barcelone. Cette interrogation qu'il a sur ces petits formats, d'abord on trouvait peu, évidemment, de matériaux à l'époque, de matériel, pour peindre, donc il n'y avait pas d'étoiles, facile, et le papier était là, à portée de la main, plus facile à trouver. Mais l'interrogation qu'il fait sur le ciel, c'est s'interroger sur un autre devenir de la peinture dans un moment si douloureux, si grave. Miro était un homme qui avait beaucoup d'humour, qui aimait rire, mais il était dans la gravité de l'interrogation et des traces qu'il pouvait laisser. Donc tout ce qu'il met en place, véritablement, dans sa peinture, c'est ce devenir de la peinture, à une période où on croit en quoi? C'est terrible. Il l'a vu monter, il a vu monter ce populisme, il a vu monter ce fascisme. Il l'a décrit, il l'a dépeint, il l'a peint. Et puis d'un seul coup, il y a quoi? Eh bien, il y a le sentiment qu'il faut continuer. Et continuer, c'est interroger aussi sur la musique, sur le ciel, et de ramasser dans des miniatures extraordinaires avec des couleurs, une puissance comme ça, et une évocation de son travail qui est absolument unique, quelque chose qui est à part, les constellations. Eh bien oui. Et il ramène ça dans un petit format. Ça n'est pas justement des constellations très grandes. Pas chez Miro, le côté miniature ou le côté immense prend le même relief. Il y a toujours la même puissance d'évocation, que ce soit sur un petit ou un grand format. Et c'est là où il va gagner encore en renouveau. Mais il n'y a pas rupture chez lui. Il y a toujours continuité à travers une interrogation qu'il fait sans cesse de lui-même et de la peinture. Et de se dire que, c'est ce que je voulais mettre en évidence, mais qui, j'espère, le traduit bien. Oui, cette interrogation étonnante qu'il a au jour le jour sur des événements qui changent, mais qui font que, eh bien, voilà, on vit avec ça. Mais les interrogations qu'il peut faire à travers les constellations, c'est un moment où il s'arrête, il se dit voilà, il faut que je me pose une autre question. Et la question, c'est aussi dans la continuité de ce qu'il avait fait avant et de ce qui va devenir ensuite.
Alors on sent bien, dans la plupart de ses toiles, que Joan Miró est habité par aussi une angoisse, une mélancolie. Il a traversé la guerre d'Espagne, puis la guerre mondiale. Mais vous l'avez dit il y a quelques secondes, Jean-Louis Prat, Miró, il a aussi beaucoup d'humour. Il aime rire et ça se voit énormément dans ces sculptures dont vous nous avez parlé. On va l'écouter en parler lui-même.
Évidemment, je sculpte.
Et qu'est-ce qui vous y a amené?
Le contact très direct avec la terre, avec le caillou, avec un arbre, avec tout cela. Par exemple, comme j'habite à la campagne, ça ne vient jamais l'idée de faire un tableau. Au contraire, c'est la sculpture, c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, si la terre est mouillée, il pleut, alors je ramasse un peu de boue, je commence là, ça devient une petite statue, etc. C'est un caillou qui me dicte une forme, et un arbre.
Oui, tandis que la ville, au contraire, vous suggère...
Ah, c'est ça, oui, plutôt une chose, la peinture qui est plus intellectuelle, pour ainsi dire.
Vous sculptez, vous façonnez, mais vous n'employez jamais le mot tailler.
Non, parce que c'est moins direct, c'est plus cérébral. Le mot tailler, c'est une chose plus cérébrale. Moi, je façonne un bout de terre anglaise, alors je commence à façonner ça de façon à ce qu'il y ait l'empreinte du pouce. Enfin, la sensation de toucher à la terre anglaise avec les empreintes de vos doigts, du pouce.
Vous aimez mieux une matière que l'on peut façonner directement
c'est ça, oui.
Que le plâtre que l'on coulera après.
C'est ça, oui, qui devient une chose plus molle, plus froide, le plâtre.
Jean-Louis Prat se promenait au milieu des sculptures que propose la rétrospective Miro au Grand Palais. C'est découvrir un Miro complètement différent. D'abord, les couleurs sont différentes, elles sont beaucoup plus éclatantes. Elles ressemblent à celles de son ami Calder. Il y a beaucoup de rouge, de jaune, de vert qui claquent. Et puis, c'est une sorte de désacralisation aussi de la sculpture. De désacralisation dans la façon qu'il a d'assembler des objets qui ne vont pas ensemble. Et en même temps, sur le plan du travail artistique proprement dit, c'est extraordinairement bien fait. Ce sont des bronzes qui sont peints. Donc c'est très étrange de voir ces salles consacrées à la sculpture.
Alors, oui, vous avez raison de souligner cela, parce que il va couler ça dans le bronze. Pourquoi? Parce que le bronze, c'est la pérennité, c'est le temps qui garantit. Mais afin d'effacer aussi ce sens d'éternité que donne le bronze, il va le peindre. Et il dira bien d'ailleurs qu'on peut le repeindre s'il y a des problèmes. C'est comme Calder d'ailleurs. Il laisse même les numéros des couleurs qu'il faut mettre pour arriver à retrouver exactement la couleur qu'il voulait avoir. Et il assemble comme ça ces objets à Théroclite qui sont ceux aussi d'un émerveillement qu'il avait lorsqu'il se promenait et qu'il découvrait à travers la terre un branchage ou un morceau de fer, de métal, et qu'il va assembler. Il ne va pas dépendre de la taille, bien sûr, parce que d'abord, c'est un métier sculpteur qui amène aussi à un apprentissage très lent. Et il n'a pas le temps, mais il veut aller, non pas vite pour aller plus vite que les autres, mais Miro ne cherche pas à nous étonner, mais il cherche à s'étonner lui-même et à créer quelque chose qui va l'amener comme ça à désacraliser le corps et à créer un autre personnage que celui que nous connaissons habituellement en sculpture, plus habitué à reconnaître quelque chose que nous avons toujours eu en face et qui amenait aussi, soyons justes, à l'académisme, à la convention. Lui, il y échappe totalement, et l'univers de Miro, qui doit aussi à l'interrogation qu'il avait eue à travers son ami Calder de la sculpture, qu'il avait profondément ému et étonné. Donc il va trouver, lui, un autre langage, un autre apport, dont on peut se dire que maintenant, eh bien, il est si novateur. Il créera aussi des sculptures comme l'oiseau lunaire ou l'oiseau solaire, qui sont le fruit d'une réflexion et d'une création totale, mais qui est issue de ce travail qu'il faisait avec la Terre, et il va, là-dedans, trouver moyen de créer quelque chose auquel personne ne pouvait s'attendre, et qui se révèle avec le temps quelque chose de beaucoup plus jeune et beaucoup plus neuf que tout ce que l'on a connu jusqu'à maintenant.
Voilà, donc c'est une exposition rétrospective à voir absolument, qui se déroule jusqu'au 4 février au Grand Palais à Paris. C'est une promenade dans un univers foisonnant, toujours surprenant, poétique. C'est magnifique, le catalogue est une merveille également. Il y a beaucoup, beaucoup de publications à l'occasion de cette rétrospective. Il y a un livre pour les enfants dont les textes sont de Daniel Pennat qui s'appelle « Le tour du ciel ». C'est édité chez Calman Lévy.
Oui,
et voilà, c'est tout à fait délicieux. Merci à vous, Jean-Louis Prat, d'être
Merci,
venu
Catherine
nous
Hérin.
En parler. Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.